Le 13h est une signature de Marie-Françoise Ewolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Cannes-Maroc 2025, les Lions indomptables du Cameroun et les Harambee Stars du Kenya s'affrontent à nouveau dans une heure au stade Nelson Mandela de Kampala. Les Lions prêts à en découdre avec leur adversaire pour se qualifier directement à la Cannes. À suivre les dernières nouvelles de Kampala, les supporters devant le petit écran pour attendre cette rencontre. Femme rurale, actrice essentielle du développement agricole, ces battantes sont à l'honneur demain 15 octobre à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Le gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille, s'emploie à réduire les inégalités de genre et les disparités entre zones urbaines et zones rurales pour une société plus inclusive et plus prospère pour tous. Transport urbain par taxi, la nouvelle poche d'insécurité. Chauffeurs et usagers sont depuis un certain temps victimes d'agressions et même d'assassinats. Les syndicats sont inquiets et dénoncent cette montée d'insécurité. Dans le 13h, témoignages et faits vécus à bord de taxi et de mototaxi. Identification des transporteurs et chauffeurs. Que deviennent les badges et les numéros de taxi? Quelle réponse aux préoccupations des citoyens? Le point dans quelques instants. Éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc, les Lions indomptables descendent dans l'arène cet après-midi pour affronter les Harambee Stars du Kenya. Le match compte pour la 4e journée du groupe J, où le Cameroun est l'actuel leader avec 7 points. Et en cas de victoire, les portes de la CAN s'ouvriront déjà pour les Lions indomptables. À moins de 2 heures du coup d'envoi de la rencontre, notre envoyé spécial, Charlie Merinos Liatou, est en direct du stade national Nelson Mandela de Kampala pour planter le décor. Bonjour Charlie.
Bonjour et bienvenue au stade national Nelson Mandela de Kampala. À moins d'une heure maintenant de ce match entre les Lions indomptables et les Harambee Stars du Kenya, le décor est totalement planté. La pelouse est bien matérialisée, mais des gradins vides. Vous le savez, la fédération kenyane a décidé d'un match à huis clos, donc pas de public, à l'exception des officiels, pour contenir la fougue du public ougandais totalement acquis à la cause des Lions indomptables. Un cordon de sécurité a été érigé tout autour du stade Nambolé. C'est l'heure de la séance d'échauffement des deux équipes, supervisée par Marc Brice pour le Cameroun. Le sélectionneur a opéré 2 changements dans son 11 de départ par rapport au dernier match. Nicolas Mouminga-Maleu est titularisé en lieu et place de Christian Bassegok à l'aile gauche de l'attaque, alors que Pierre Koundé-Malang évoluera en lieu et place de Carlos Baleba au milieu du terrain. Dans l'axe de la défense, Jean-Charles Castelletto est reconduit à la place de Christophe Fobo, sorti sur blessure vendredi dernier à Yaoundé. L'enjeu de ce match est double pour les Lions indomptables, décrocher une seconde victoire d'affilée et s'assurer une qualification directe pour la CAN au Maroc. Le capitaine Vincent Boubacar l'a rappelé hier dans une interview à la presse. Le groupe est mobilisé pour la victoire. Depuis le stade national Nelson Mandela de Kampala, Roger Kitsé, Charlie Merinos Liatou, CRTV.
Merci Charlie Merinos. Le match c'est donc à 14h tout à l'heure dans la tanière. On est conscient de l'enjeu de ce match qui pourrait être qualificatif pour les Lions indomptables en cas de victoire. Je vous propose d'écouter le capitaine Vincent Aboubakar au micro de notre envoyé spécial à Kampala, Charlie Merinos Liatou.
La manière que nous avons joué à Yaoundé, et je pense que c'est un concurrent direct qui va essayer de faire tout pour gagner. C'est à nous de répondre présent et faire ce qu'il faut pour pouvoir tuer ce match le plus rapidement possible. C'est une équipe athlétique, c'est une équipe bien physique, donc il va falloir qu'on réponde bien physiquement et on joue bien le coup, parce que c'est une équipe, si elle commence à marquer aussi, ça peut aussi faire mal. Donc il faut qu'on défende bien et puis on fasse le nécessaire sur le plan offensif. Donc je pense que c'est une équipe qui va chercher la victoire, donc c'est à nous de faire le nécessaire, travailler bien défensivement et puis jouer très très bien le coup offensivement. On est concentré, on est là pour venir faire un résultat positif. Et c'est ça qui nous anime depuis un moment. Donc, on va essayer de suivre notre petit bout de chemin. Et si demain on gagne, je pense qu'on a déjà fait un grand pas vers la qualification. Donc, je pense que mes coéquipiers et moi, nous sommes conscients de l'enjeu du match de demain. Donc, on va faire le nécessaire. Il faut qu'on quitte ça avec un résultat positif.
Des millions de Camerounais attendent une nouvelle victoire de leur équipe nationale cet après-midi face au Kenya. Ce vent d'espoir souffle dans la cité capitale où de nombreux supporters se sont prononcés à quelques minutes du coup d'envoi. Le public fait son match dans ce reportage de Russell Oriani.
Une note positive dans le sillage du succès éclatant à Yaoundé. Les fans des Lions Indomptables ce lundi n'ont que des formules de victoire au bout des lèvres.
Je suis sûr qu'on va gagner. C'est ce qu'on pouvait dire. Il faut aller même dire c'est le Yard de Marie, on peut affronter maintenant.
Même fini par 6 ou 4 à 0.
Je vois le match à 3-1.
Qu'on va encore les battre comme la dernière fois. Malgré qu'on avait raté beaucoup de buts. J'ai confiance aux Camerounais.
Je vois ça comme une victoire à l'avance.
Ce sentiment de confiance généralisé est renforcé par les récentes prestations de l'équipe nationale, surtout entretenues par la qualité du jeu déployé face au Kenya.
Ah, regardez le jeu, c'est comme s'ils ont trouvé là où vous avez les failles. Ce jeu s'améliore. Non, ça ne fait pas peur.
Le dynamisme qu'ils ont lorsqu'ils jouent, il y a déjà un jeu en équipe.
Les tactiques de jouer, le fighting spirit, on voit la détermination. J'ai l'assurance que notre place à la CAN Maroc est déjà assurée.
En dépit de la sérénité ambiante, certains avis néanmoins imposent la méfiance.
On dit souvent qu'il ne faut pas sous-estimer son adversaire, mais je sais qu'ils vont gagner.
Les mordus de football, mobilisés dans la cité capitale, ne comptent que les minutes qui les séparent d'une nouvelle explosion de joie cet après-midi.
Même en cas de match nul ou de défaite cet après-midi, le Cameroun conserverait toutes ses chances de qualification pour le Maroc. Mais ils peuvent se simplifier la tâche en l'emportant cet après-midi à Kampala. Avec la sérénité retrouvée dans la tanière et au vu du match de Yaoundé, les Lions peuvent le faire. Fritz Bayamak.
Les Lions Indomptables sont à une marche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une victoire cet après-midi à Kampala face au Kenya les propulserait au Maroc à 2 journées du terme des éliminatoires. Les 2 dernières rencontres de ces éliminatoires contre la Namibie et le Zimbabwe en novembre prochain ne pourraient servir qu'à asseoir la domination du Cameroun dans ce groupe J ou encore pour le staff technique à tester de nouveaux éléments à intégrer dans la tanière pour les prochaines échéances. Les Lions Indomptables sont bien conscients de la tâche et du défi qui les attendent au stade Nelson Mandela de Kampala. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses camarades ne veulent pas rater le coach. L'équipe qu'ils ont dominée il y a 3 jours au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé ne peut plus être la même. Même s'ils jouent loin de leur base de Nairobi, les Arimbistas n'auront pas à gérer le 12e homme, le public, comme cela a été le cas vendredi dernier à Yaoundé. Pour éviter le moindre risque, la Fédération kényane de football a choisi le huis clos pour cette rencontre. C'est un Kenya revanchard que vont retrouver Marc Brice et ses Lions tout à l'heure. Une équipe qui pourrait rebattre les cartes du groupe J en cas de victoire sur le Cameroun. Mais les Lions Indomptables ont faim. On les a vus à Yaoundé, toutes griffes dehors. Ils ont assommé leur proie. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de l'achever et se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 9 minutes à Yaoundé. Le ministre de la Communication, président du Conseil national de la publicité, invite les personnes physiques ou morales désirant exercer dans le secteur de la publicité en qualité de régisseur ou d'agence conseil à déposer les dossiers de demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément au ministère de la Communication, direction du développement des médias privés de la publicité à Yaoundé, à compter du mardi 15 octobre 2024. Les dossiers complets qui seront reçus jusqu'au vendredi 15 novembre à 15h30. Les dossiers complets seront reçus à 15h30 le vendredi 15 novembre prochain. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, conduit en République fédérale d'Allemagne du 12 au 21 octobre 2024 une mission de travail dans le cadre de la tenue à Heilbronn de la 3e grande rencontre au gouvernement diaspora d'Europe de promotion des initiatives gouvernementales en faveur de la diaspora et qui s'inscrit en droite ligne de l'appel du président de la République, Paul Biya, en direction des jeunes Camerounais de la diaspora de revenir contribuer au développement du Cameroun. Destruction d'une dizaine de ponts dans l'arrondissement de Massok, Son-Loulou, département de la Sanaga-Maritime, par les pluies diluviennes. L'assistance financière du chef de l'État pour la réhabilitation des ouvrages, une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République en date du 10 octobre, instruit le déblocage en urgence par le ministre des Finances de plus de 60 millions de francs CFA, des fonds destinés à permettre au plus tôt une sortie du sinistre pour les habitants des localités concernées. Rabia Toufou Daoutou.
13 ponts endommagés, 25 villages affectés. L'arrondissement de Massok, son loulou n'a pas échappé à la furie des pluies. Malgré l'élan de solidarité face aux sinistres, levée de fonds des élites, collecte de fonds par la diaspora, le processus de réhabilitation des ouvrages détruits par les eaux n'est pas achevé. Des localités entières sont encore coupées du reste du département de la Sanaga maritime, une situation qui plombe l'activité locale et plonge les populations dans la détresse. La fin du calvaire est amorcée. Un peu plus de 61,5 millions de francs CFA débloqués en urgence sur très haute instruction du chef de l'État. Le geste présidentiel est une mesure d'urgence destinée à réactiver le plus tôt possible le trafic des personnes et des biens en attendant la construction définitive. L'assistance présidentielle intervient après une série d'autres survenues ces dernières semaines suite au débordement des précipitations dans les régions de l'extrême nord et de l'ouest notamment. Le ministre de l'administration territoriale au cours de sa récente descente sur le site sinistré de la Sanaga maritime, région du littoral, annonçait déjà les couleurs du geste présidentiel. Une promesse rendue concrète à travers la correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre des Finances et relative au déblocage des fonds pour l'aide d'urgence des ressources mises à la disposition du préfet du département de la Sanaga maritime.
L'insécurité dans le transport urbain par taxi va de plus en plus grandissante dans les zones urbaines. Les passagers et conducteurs de taxi sont victimes des cas d'agression. Une vingtaine de morts parmi les taximens enregistrés en l'espace de 2 mois et réunis le 3 octobre dernier au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Les syndicalistes ont invité les pouvoirs publics à renforcer les mesures sécuritaires afin de tordre le cou à ce phénomène qui menace la sécurité des populations. Voici le reportage de Marie-Claire Messier.
Le nombre des cas d'agression à bord des taxis est de plus en plus préoccupant. Les syndicalistes du secteur des transports par taxi dénoncent le phénomène qui prend de l'ampleur dans les grandes métropoles. Ibrahim Ayaya, président national du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun.
Il y a par exemple les rapes, les agressions, les enlèvements et même les assassinats. Nous avons donc pris sur nous de lutter contre ce fléau avec le concours des pouvoirs publics, des forces de maintien de l'ordre.
Les responsables syndicaux déplorent également la série de meurtres perpétrés contre les chauffeurs de taxi. Mounchirou Amadou, président national des chauffeurs du Cameroun.
Tous ceux qui agressent nos membres et partent les tuer, ils prennent le taxi pour continuer à travailler dans la ville. Ils agressent tous les passagers. En moins de 2 mois, nous avons perdu 11 chauffeurs de taxi.
Face à la recrudescence de ces agressions, les syndicalistes invitent les pouvoirs publics à une mutualisation des efforts pour éradiquer le phénomène. Joseph Efila, président national des exploitants et bus du Cameroun.
Si les contrôles routiers sont vraiment efficace, ça va diminuer quand même ce genre de choses. Pour qu'un taxi sorte de la ville de Yaoundé, il doit avoir l'autorisation de sortie. Il y a aussi le badge si tu veux sortir de la ville. On sait que c'est un badge signé par le ministère des Transports.
Une synergie d'action qui vise à assainir ce secteur d'activité et intensifier les actions menées sur le terrain qui permettront à coup sûr de renforcer la sécurité des passagers et des taximen.
Depuis décembre 2021, 17 syndicats des conducteurs de taxi se sont accordés pour la production des badges des conducteurs de taxi. Le gouvernement compte reprendre la main pour un système plus sécurisé et traçable. Les badges des conducteurs de taxi et les numéros de portière constituent des éléments majeurs pour l'assainissement du secteur des taxis et la sécurisation des usagers. Séraphin Djikam.
C'est un véritable cafouillage dans le secteur de la production des badges des conducteurs de taxi et les mauvaises pratiques roulent à tombeau ouvert. Patrice Samène, président fédéral des syndicats des transports du Cameroun.
D'autres vont même dans les cyber, eux-mêmes ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils mettent leurs numéros qu'ils veulent, ils accrochent et avec ça, on ne peut pas retrouver le chauffeur.
Les mêmes actes illégaux s'observent en ce qui concerne les numérotations sur les portières.
Il fallait faire un fichier et que les taxis soient enregistrés. Chaque année, on devait voir combien de taxis sont sortis de la circulation, combien sont entrés et donner un chiffre exact.
Défaut de badge et numérotation peu fiables, les chauffeurs de taxi reconnaissent ces réalités qui contribuent à faire grandir l'insécurité dans le secteur.
C'est vrai, on agresse tout le manque, mais je crois que les badges, à partir de là, on peut en identifier le chauffeur. Parce que pour moi, les policiers, ils doivent regarder le numéro des portiers. C'est la mairie qui délivre le numéro des portiers.
Un Un nouveau badge, plus sécurisé, délivré par le gouvernement, est attendu. Patrice Samen.
Parce qu'il y a le ministre de transport qui est arrivé, il a dit qu'il faut que ce soit le ministère de transport qui produise les badges. Et le dossier se trouve maintenant au premier ministère. C'est le premier ministère maintenant qui doit donner le OK.
Des badges traçables et des numéros de portières fiables pour contribuer à faire reculer l'insécurité actuelle qui inquiète aussi bien les usagers que les conducteurs de taxis.
Les femmes rurales sont à l'honneur demain 15 octobre à l'occasion de leur journée mondiale. Dans l'extrême nord, par exemple, les mamelles nourricières subissent de plein fouet cette année l'impact des inondations. Les eaux qui se déchaînent dans plusieurs départements détruisent leurs cultures, fragilisent leurs activités génératrices de revenus et accentuent leur vulnérabilité. En ligne de Maroua, Adamo Moussa, CRTV Extrême Nord.
La saison agricole est particulièrement dévastatrice cette année pour les femmes rurales de l'extrême nord. Celles du Mayo Tianaga et du Logoni Chari ont vu leurs champs être envahis par des eaux.
C'est tout le grenier de mil qui est parti.
Nous n'arrivons pas à écouler nos marchandises parce qu'il n'y a pas la route.
Elles disposent des semences améliorées, mais cette année, la production est hypothéquée.
On a des semences qui nous aident, mais jusqu'à là, sur cette année, je ne crois pas que ça va vraiment nous donner beaucoup de choses. Alors on se demande même si on ne peut pas encore changer les semences qui peuvent nous donner quelques jours seulement. Mais sinon, le mil rouge, par exemple, n'a pas vraiment donné cette année.
L'État, conscient du rôle moteur que jouent ces mamelles nourricières dans le maintien de la sécurité alimentaire, est à leur côté pour gérer cet épisode. Elles sont, par exemple, regroupées en associations pour bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics. Mahamat Saleh, délégué régional de la promotion de la femme et de la famille.
Le MINPROF les encadre en fonction de différentes activités qu'elles mènent. Nous les avons fédérées à travers des réseaux d'associations féminines.
Du fait des inondations, ces femmes rurales sont touchées, mais pas couchées. Elles entendent faire preuve de résilience. Marwa Adamu Moussa, CRTV.
Des champs au rayon, la femme rurale de la région du centre ne fait qu'un pas. Grâce aux cultures issues des terres, elle arrive à produire des dérivés destinés à la consommation. Le manioc, par exemple, est utilisé pour produire du yaourt, des biscuits ou encore des boissons alcoolisées bio. Je suis femme rurale et j'aime le manioc. Voici, c'est un reportage de Claudia Zebemo, CRTV Centre.
Gisèle Dimvogo est une femme rurale. Le génie de ses mains l'a orientée vers la transformation du manioc principalement. Les produits dérivés de ce tubercule si précieux sont riches et variés.
Nous faisons dans le yaourt, le manioc, les biscuits, les pâtes alimentaires, les liqueurs, le gari, fruité.
Du manioc au yaourt à boire.
On met la farine de manioc dans de l'eau et on extrait donc le lait. C'est ce lait-là qu'on mélange avec d'autres ingrédients.
Pour les liqueurs, le temps de fabrication est plus long.
On fermente le manioc pendant 3 jours. Après, on passe par la distillation pour baisser le taux d'alcool.
La femme rurale mamelle nourricière n'arrive pas toujours à produire à la mesure de son savoir-faire. Les difficultés rencontrées ne sont pas des moindres.
Nous avons Carrefour qui nous a demandé ces produits, mais on ne peut pas signer le contrat parce que nous n'avons pas des équipements pour pouvoir produire en grande quantité. Il faut vraiment qu'il y ait la matière première en quantité et en qualité. On ne peut pas faire ça avec n'importe quelle manioc. C'est pour ça que nous avons les difficultés de satisfaire la clientèle.
Ces entraves, qui sonnent comme une motivation, à toujours répondre à la demande des consommateurs qui en raffolent. Dans le centre, Claudia Zebemo, CRTV.
Dégradation de la communication électronique depuis plusieurs semaines, des perturbations des réseaux mobiles et Internet sont de plus en plus fréquentes. Une situation qui serait due à une offre insuffisante en énergie électrique et des coupures répétées de la fibre optique. En réponse à cette situation, le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Liliken, a effectué la semaine dernière dans les villes de Yaoundé et Douala une série de visites d'inspection auprès des opérateurs. Les perspectives promettent à la suite de ces visites d'inspection sont présentées dans ce reportage de Coralie Laetitia Imini.
Ces dernières semaines, les perturbations des communications électroniques au Cameroun ont
ont pris des proportions inquiétantes, devenant ainsi un véritable caillou dans la chaussure de nombreux usagers.
En tant que journaliste, tu peux être sur le terrain et tu as besoin d'envoyer un élément pour alimenter les journaux. C'est compliqué avec la qualité du réseau qui est approximative.
Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, face à la presse vendredi dernier, a assuré que des solutions durables sont envisageables. Parmi elles, le renforcement de la gouvernance du secteur, la diversification des sources d'énergie et la modernisation des équipements vieillissants. Dr Deningae, professeur associé des universités et directeur au ministère des Postes et Télécommunications.
Pour garantir la fiabilité et la performance de nos réseaux, il est essentiel d'investir dans les infrastructures robustes. Cela inclut le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales et périurbaines. Cela passe aussi par la diversification des sources d'énergie en utilisant des énergies renouvelables comme le solaire. La maintenance préventive aussi est une solution. La collaboration dans ce domaine entre le secteur public et privé est essentielle pour mobiliser les ressources nécessaires au renforcement des infrastructures.
Des propositions formulées et visant à améliorer la qualité des services de communication électronique dans le pays.
Amélioration des services de communication mobile. Vous allez écouter les recommandations prescrites par le gouvernement. Elles sont connues. Elles ont été présentées vendredi dernier à Yaoundé au cours d'un point de presse du ministre des Postes et Télécommunications. Ces recommandations intègrent le suivi des cahiers de charges des opérateurs, les investissements sur le réseau national et les mesures d'anticipation d'éventuels dysfonctionnements. Dans une interview accordée hier à dimanche midi, le ministre des Postes et Télécommunications souhaite que toutes les parties prenantes s'impliquent pour un retour à la normale. Minette Libom Liliken, dans cet extrait d'interview sélectionné par Gilles-Claude Mbongitundi.
Les consommateurs ne doivent absolument pas désespérer. Il faut néanmoins savoir que les ruptures des câbles à fibre optique sur certains segments du réseau national, souvent causées par des travaux publics ou par des actes de vandalisme, ainsi que les coupures fréquentes d'énergie électrique, sont des facteurs majeurs qui affectent la qualité des services de communication. Parmi les résolutions que nous avons identifiées, il y a la mise en place urgente d'un cadre de collaboration avec les sectoriels pour des discussions approfondies avec Camtel, les opérateurs et le régulateur. L'objectif est de mieux coordonner les activités, notamment celles liées aux travaux sur le terrain, pour minimiser les incidents de coupure de la fibre. Il faut comprendre que la fibre est une infrastructure critique. Il est donc impératif également de mettre en place une cartographie précise des infrastructures de fibre optique afin de prévenir de telles interruptions à l'avenir.
Dans le cadre du mois d'octobre, octobre rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein, le CRACER organise depuis le 10 octobre dernier une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Le CRACER invite donc toutes les femmes à se faire consulter. Je vous propose d'écouter le professeur Angèle Kabeyene-Okono. Elle est la coordinatrice de cette campagne. Elle est au micro d'Aïm Bilé.
On a profité de ce mois qui est dédié à la femme, qui est le mois d'octobre, pour pouvoir sensibiliser les femmes et donc organiser donc cette campagne de dépistage qui intéresse les deux cancers principaux de la femme, à savoir le cancer du sein, qui est le premier cancer, et le cancer du col de l'utérus. Parce qu'on sait que ce sont des pathologies lourdes. Lorsqu'un cancer arrive, il faut beaucoup dépenser et on n'est pas souvent sûr de l'issue. Parce qu'on peut avoir tout dépensé et puis finalement, on arrive toujours à une issue fatale. Donc le mieux, par exemple au niveau du col, c'est de pouvoir détecter ce qu'on appelle des lésions précancéreuses.
Le directeur général de l'Agence du Service Civique National de Participation au Développement, Monsieur Taossi, effectue une descente à Bafoussam dans la région de l'Ouest le mercredi 16 octobre dans le cadre du lancement régional de la troisième phase de la campagne de prévention des violences et des discours de haine en milieu scolaire, extrascolaire et universitaire sous le thème intensification de la lutte contre les violences et la promotion de la pratique des bons comportements, gage d'une réussite scolaire. La série cérémonie solennelle du dit lancement, placée sous la présence du gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, aura pour cadre le lycée classique de Bafoussam. Ce sera à partir de 12 heures. Canne blanche, outil d'autonomisation et d'inclusion des personnes handicapées visuelles en milieu scolaire et professionnel, thème retenu de la 45e édition de la Journée internationale de la canne blanche qui se célèbre demain 15 octobre. Symbole de cécité et de malvoyance, elle permet cette canne blanche aux handicapés visuels de se déplacer dans la rue. Cependant, les codes de cet outil de communication restent méconnus des personnes valides. Voici donc le constat qui a été fait dans ce reportage de Rose Coco.
Se déplacer en toute sécurité demeure un véritable parcours du combattant pour les personnes déficientes visuelles. La canne blanche, symbole universel de la cécité, est peu connue des piétons et des automobilistes.
Quand ils font le signe avec le bâton, je ne comprends pas. Lorsqu'ils veulent traverser la route ou bien lorsqu'ils attendent quelqu'un, je ne connais pas. Difficile pour moi d'aider un malvoyant.
Certains ignorent même l'existence de cet instrument essentiel aux malvoyants.
Entendu parler. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit.
Quand je suis la canne blanche, je fais référence à la canne à sucre. Je ne sais pas si je me comprends ou pas.
D'autres, bien qu'informés, ne maîtrisent pas les codes de communication de la canne blanche.
Honnêtement, par là, je ne maîtrise rien de la canne blanche.
Quand il veut traverser la route, il soulève ça.
Il plaide pour une mise en place de structures de vulgarisation de ces dispositifs.
Si j'étais suffisamment éduqué, cela me permettrait davantage de mieux apporter une aide à ceux qui l'utilisent.
J'aimerais comprendre le signe. Quand il fait comme ça, je dois savoir que ça signifie qu'il a besoin de tel qui veut ceci.
Une initiative qui permettra sans doute d'accorder une meilleure attention aux handicapés visuels en situation de mobilité.
Cette note en sport, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum, élu tout premier président de l'Association des Confédérations Africaines des Sports Olympiques, c'était ce week-end au terme d'une assemblée générale constituante à Yaoundé. Les bureaux exécutifs de la CNOA et de la CASEL sont en ce moment en visite au ministère des Sports et de l'Éducation physique. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais. Winston Lebga.
Good day. Kenya's Harambee Stars welcome Cameroon's Indomitable Lions today as from 2 p.m. at the Mandela Stadium in Kampala, Uganda. The game is a match day 4 fixture of Group J at the ongoing AFCON Morocco 2025 qualifiers. The Lions currently lead the standings in Group J with 7 points after trouncing the Harambee Stars 4-1 at home on Friday. Captain Vincent Aboubakar says they are targeting another win today. Youth Affairs and Civic Education Minister Mununa Futsu is leading a working mission to the Federal Republic of Germany, slated for the city of Heilbronn from the 12th to the 21st of October. Mununa Futsu will be attending the third Grand Government Europe Diaspora meeting in keeping with the call made by President Paul Biya to young Cameroonians in the diaspora to return home. He will also be evaluating the partnership agreements with German companies and organizations for the work-linked vocational training of young Cameroonians, 30 of whom are currently on work placements in Germany. A free breast cancer and cervical cancer screening campaign is ongoing at the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproductive Teaching Hospital, CRESE. The activity is marking the Breast Cancer Awareness Month, known as Pink October, and will end on the 18th. The coordinator of the exercise, Professor Angèle Kabayene-Okono, advises that women use this opportunity, which could help detect for cancer, if any, and allow for early treatment. Cameroon will tomorrow, Tuesday, October 15, join the rest of the globe in observing the International Day of Rural Women. The country will mark the event under the theme Rural Women and Import Substitution Opportunities and Challenges. In the central region, the rural women have been producing yogurt, biscuits, and organic alcoholic drinks from cassava in line with the import substitution policy. These and other developments in the news will be yours in a 10-minute English news during the halftime of the Kenya versus Cameroon game.
Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les Lions Indomptables du Cameroun et les Harambee Stars du Kenya s'affrontent dans 30 minutes au stade Nelson Mandela de Kampala. Les Lions prêts à en découdre avec leur adversaire pour se qualifier directement à la CAN. 13h30 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.